Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Impossible de parler d'amour sans parler des romans d'amour. Les auditeurs et auditrices me pardonneront, j'espère, d'avoir ici cédé à l'évidence, mais comment ne pas profiter d'une telle aubaine ? En effet, en 1984, dans l'émission « Un livre des voix », Arlette Dave avait présenté et diffusé des extraits du livre de l'écrivain Michel Crespi, dont le titre était justement « Roman d'amour ».
Au début, il y a eu Sarah et Harry. La rencontre de Sarah et de Harry a d'abord été purement charnelle, une conjonction Soleil-Vénus, à en croire les astrologues que j'ai consultés. Il paraît que ce genre de configuration est particulièrement ravageur. Et en effet, il n'a pas fallu attendre longtemps pour en mesurer la puissance. Au bout de peu de jours, dès que Sarah entrait dans une pièce, Harry se mettait aussitôt à baver et à haleter comme un fox terrier en rut. Et si elle le frôlait par mégarde, il sautait jusqu'au plafond. Elle, de son côté, avait tant de peine à se retenir que, lorsque Harry se trouvait là, elle baissait obstinément les yeux, effrayée de ce qu'on y lirait si elle se laissait aller à le regarder. Je pourrais presque m'arrêter là, l'essentiel est dit dans sa banalité. Les deux imbéciles auraient dû se contenter de coucher ensemble jusqu'à plus soif, ce qui les aurait occupés pendant quelques mois, puis repu de se séparer en se remerciant réciproquement d'un air distrait. Mais Harry avait aussi une tête. Il s'en est rendu compte le jour où elle a quitté ses épaules. Il a dû avoir juste le temps de la voir passer, hop, et elle était partie. Et à l'instant où il a perdu la tête, il a essayé de se fourrer quelque chose dedans. Ce n'est même plus une image surréaliste, c'est de l'absurdité pure et simple. C'est pourtant ce qui s'est passé.
Michel Crespi, ce roman d'amour que vous venez d'écrire n'a rien d'un roman photo. Les romans photos qui, en général, suivent toutes sortes de péripéties, mais finissent bien, le vôtre est assez pessimiste, il est même terriblement dramatique. Or, il semble qu'il partait bien, il partait un peu dans la folie, mais tout de même, il partait très bien. Ces deux êtres qui se rencontraient avec un petit handicap, mais pas grand-chose, un handicap d'âge, mais après tout, les couples où il y a une vingtaine d'années de différence sont nombreux, et généralement ça rassure la jeune femme, donc il n'y avait pas de raison majeure pour que ce couple subissent tellement de traverses. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Comment d'abord se sont-ils rencontrés, Sarah et Harry ?
Ils se sont rencontrés par hasard. C'est ce qu'on dit toujours, on se rencontre toujours par hasard. Je ne crois pas tellement au hasard dans ces matières. On rencontre souvent des gens qu'on aurait dû connaître de toute manière. Et le personnage principal, Harry, n'est pas un prince et Sarah une paysanne, ou le contraire. Ce sont des gens dont les milieux sociaux sont assez proches. Et qui se rencontrent chez des amis, et donc c'est pas du tout un hasard. Ils sont déjà assez proches au départ.
Mais ils se reconnaissent sans se connaître, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils savent, dès le premier instant, que quelque chose va flamber entre eux.
Oui, c'est un coup de foudre. Et le coup de foudre, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne se prévoit pas, surtout pas, qui ne se contrôle pas. Et au premier regard, ou presque, ils savent que quelque chose va se passer entre eux. À quoi c'est dû? Je ne sais pas. Il faudrait consulter des astrologues, des érotologues, je sais comment ça s'appelle, pour savoir de quoi il s'agit, mais ce sont des choses qui arrivent.
Oui, effectivement, à tel point que Sarah, qui jusqu'ici était peut-être frigide, enfin, elle avait de grosses difficultés à trouver un plaisir avec un homme, et là, il semble que ça se passe magnifiquement bien avec cet homme, que non seulement elle est comblée sur le plan de l'esprit, parce qu'il y a en lui un enjouement, une expérience de la vie, un inattendu qui l'a séduit totalement, mais il y a aussi une rencontre physique étonnante.
Je crois que dans l'amour, dans une passion en vérité, parce que le titre est trompeur, le titre c'est roman d'amour, et en réalité il s'agit d'une passion et pas d'un amour. Ce sont deux choses différentes. Dans une passion, il y a toujours une base physique, une présence physique d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui est d'ailleurs très difficile à dire avec des mots. Ce sont des choses qui se passent au niveau de la peau, ou j'aurais du mal à localiser très précisément, mais c'est une chose très physique, et cette révélation physique arrive.
Comment c'était ? C'était chaud. C'était tendre. C'était drôle. Ça ressemblait à un pique-nique et pourtant c'est le jour de ma vie où j'ai eu le plus de plaisir. J'étais plus ou moins frigide jusque-là. J'aimais bien faire l'amour, j'avais des orgasmes, normalement. Mais Harry m'a fait découvrir autre chose. Tu veux savoir quoi ?
Non. Oui, je veux savoir quoi. Je le sais déjà.
Il m'a réconcilié avec moi-même. Il m'a réuni. Il a connecté mon sexe à mon corps tout entier. Avant Harry, je réagissais comme un homme. Mes mains, mes seins, mes épaules étaient insensibles et je ne commençais à exister sexuellement qu'à l'approche du bas-ventre. Mon sexe n'était qu'une partie de moi-même, strictement localisée. Mais avec ce type, chaque centimètre carré de ma peau avait besoin de lui et le réclamait. S'il me touchait seulement le coude, je me mettais à grimper au rideau. Et s'il me posait un doigt sur mon nombril, je devenais à peu près dingue. Il me fichait le feu partout.
Harry me l'avait confié dès les premiers jours avec une surprise ravie. La violence des réactions de Sarah l'avait presque effrayée. Elle avait des orgasmes extraordinairement brutaux qui la transformaient en arc-en-ciel de plaisir. Au bout de quelques secondes, la vague la prenait et la bouleversait pour la rejeter sur le rivage, épuisée, les larmes aux yeux. Alors elle s'effondrait, les tempes humides, respirant fort comme si elle sortait de l'océan. Aussitôt qu'il avançait la main, Sarah miaulait des gémissements de louve, son ventre se tordait, ses doigts devenaient des griffes. Harry sortait de ses expériences considérablement réconforté. Ça lui plaisait tellement de se prendre pour un surhomme qu'il en oubliait totalement son propre plaisir. Il faut dire que, sur ce plan, Sarah se montrait d'une passivité désarmante. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a commencé à s'intéresser à lui et à ce qu'il pouvait ressentir. Ordinairement, elle se pelotonnait sur le lit comme un chat dans son panier, et elle se laissait faire sans bouger, détendue et reconnaissante. Dans les moments d'extase, il arrivait qu'elle lui caressât le dos. Mais ça lui était tout à fait égal. Elle lui faisait jouir l'amour-propre, et il préférait ça. Ce qu'il aimait le plus, c'était la façon dont elle ouvrait les yeux tout de suite après, semblable à un enfant qui se réveille dans une chambre inconnue et jette autour de lui un regard incrédule. Elle avait accompli un long voyage au fond d'elle-même, et il était content d'être la première chose qu'elle voyait au retour. Un guide sûr, en qui on a confiance, et qu'on remercie d'un battement de cils ému.
Thank you.
ça n'est pas totalement physique, mais il y a une dimension physique qu'on ne peut pas éliminer. Et d'ailleurs, vers la fin du livre, quand les choses commencent à se gâter entre eux, cette entente physique disparaît, se bloque, se coince, et c'est pas seulement un symbole. C'est vrai que le corps et l'esprit, dans une passion, avancent de front, et quand les choses vont mal, tout va mal à la fois, notamment l'aspect physique.
Oui, je crois que tous les couples ont dû vivre cette expérience. Même s'il n'y a pas de grande passion comme chez ces deux êtres, il est bien évident que le refus mental s'accompagne d'un refus physique total, jusqu'à la douleur, enfin. Mais cette passion, qui est vécue avec une grande exigence, surtout de la part de Sarah, va d'abord s'effriter un peu. Il y a beaucoup de scènes entre eux, mais pourquoi? Qu'est-ce qui amène ce couple d'abord au bord de la faillite, et puis finalement, mais nous le verrons tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe entre eux?
Je crois qu'ils demandent, j'allais dire beaucoup, ils demandent tout, dès le début, puisqu'il y a justement un coup de foudre qui les absorbe totalement l'un dans l'autre, puisqu'il y a par ailleurs cette entente physique qui est une véritable révélation pour l'un et pour l'autre. Ils s'attendent à ce que le monde entier change et que chacun des deux change aussi complètement. Et situe la barre très haut tout de suite, ils se placent tout de suite sur les crêtes, sur les sommets. Et la difficulté est qu'on ne peut pas rester très longtemps toujours sur les crêtes. Et à un certain moment, parce que il y a des problèmes d'argent, parce qu'un jour on est fatigué, parce que la compréhension n'est pas toujours absolument totalement directe et sans problème, les choses diminuent un peu d'intensité. Et ce que Sarah ne supporte pas, Harry, lui, dans le livre, le supporte un peu mieux, peut-être parce qu'il est un peu plus âgé, ce que Sarah ne supporte pas, c'est que ça puisse diminuer d'intensité. Ça, c'est une chose qui lui est complètement insupportable, parce que elle a cru que on pourrait vivre toute sa vie une passion totale. C'est un peu une illusion d'adolescente, mais je dirais que c'est une illusion nécessaire. Je crois que c'est beau d'une certaine manière de croire qu'on peut vivre toute sa vie sur le sommet. Mais à moins d'être un aigle, et nous n'en sommes pas, et eux non plus, c'est très difficile parce qu'un jour vient où on quitte le sommet. Et ce jour-là, on a un sentiment d'échec, même si on est déjà très au-dessus de ce que beaucoup de gens vivent par ailleurs. Quand on a vécu quelque chose d'extrêmement intense, le fait de redescendre un tout petit peu s'accompagne d'un sentiment d'échec, et surtout de la possibilité d'un échec futur. Et à partir du moment où on considère qu'il est possible que ça échoue, on n'y croit plus suffisamment. Je crois que c'est un désir d'absolu, en fin de compte, et le désir d'absolu ne peut connaître aucune espèce de concession ou d'affaiblissement ou d'effritement. C'est ça qui se passe entre eux.
Il semble que c'est Sarah qui ne fait pas l'effort nécessaire parce que, bon, peut-être parce qu'elle est jeune et qu'elle a plus besoin d'absolu, effectivement. L'absolu, c'est le fait des jeunes gens très jeunes, finalement. Mais il semble que non seulement elle ne cherche pas à comprendre, mais elle se refuse à comprendre et à faire l'effort nécessaire pour comprendre Harry, pour comprendre ses faiblesses. Elle dit parfois qu'elle l'aime tel qu'il est, avec toutes ses faiblesses, mais en réalité, je crois que non. Je crois qu'elle le veut absolument parfait, bien qu'elle le veuille aussi tout à fait inattendu. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'il soit comme elle s'attendrait à sa perfection, mais peut-être à quelque chose de plus. Et c'est ça, évidemment, qui les amène au bord du gouffre. Harry ne peut pas tenir une pareille performance.
Oui, mais elle non plus. Enfin, je ne sais pas s'il y a vraiment un très grand décalage entre deux. Parce que c'est Harry, à un certain moment, qui rompt lui aussi. C'est lui qui finit par la chasser, et aussi pour rien, pour une peccadille, pour une accumulation de petites choses dont chacune en soi n'est pas suffisante.
Ils étaient allés trop loin. Ils n'aspiraient plus l'un et l'autre secrètement qu'à l'irrémédiable. Ils ne désiraient plus que le seul médicament qui pût apaiser leurs maux, la solitude et le silence. Un siècle auparavant, ils se fussent suicidés ensemble. Au fait, ce que Harry allait faire, c'était un suicide. Plus qu'un suicide, un meurtre. Plus tard dans la soirée, après y avoir longuement réfléchi, il se leva. Il fit quelques pas, s'étira, soupira. Il éprouvait presque du soulagement, une infinie tristesse. Il avait pris une décision. Sarah s'était endormie dans la cuisine, la tête dans les bras, comme une écolière fatiguée. Elle se réveilla courbattue et la bouche amère vers 7 heures du matin. Elle aussi fit quelques pas pour chasser les fourmis de ses mollets, s'étira et soupira. Puis elle se souvint de ce qui s'était passé. Lentement, avec des précautions de chatte, elle pesa sur le loquet et entr'ouvrit la porte. Le salon était plongé dans l'obscurité. Elle traversa le couloir et fit de la lumière. Ce qu'elle vit la laissa pétrifiée. Harry avait tout enlevé. Tout. Le canapé, les guéridons et la petite table, les tapis, les bibelots, les aquarelles. Tout ce qu'ils avaient patiemment acheté ensemble. Les meubles qu'ils avaient choisis main dans la main, qui symbolisaient leur vie commune. Le canapé était repoussé au fond de la pièce et le mobilier s'empilait sur ses coussins en un amoncellement chaotique qui évoquait les charrettes à bras des réfugiés. Sarah s'approcha. Un abat-jour crevé surmontait le monticule d'où émergeait le pied d'une table et un sous-verre fêlé. Le petit bouddha de porcelaine était réduit en miettes sous le pied du divan et le cheval rose de verre filé gisait à ses côtés, décapité. Il n'avait pas cherché à casser, il s'était seulement dépêché de tout entasser pêle-mêle et quelques objets s'étaient brisés dans la hâte. Il avait déversé toutes ses affaires à elle dans 2 grands sacs de plastique cachés derrière la porte. Elle en entr'ouvrit un et reconnut sa trousse à maquillage, 2 petits pots de crème. Sa robe de chambre avait disparu de la patère. Il avait tout détruit. Il avait effacé en quelques heures les 4 derniers mois. La villa était revenue à son état primitif, vide et désolé. L'antre caverneuse de l'ours solitaire. Et plus rien de Sarah ne l'habitait. Harry la chassait, la renvoyait, comme on remercie un domestique qui ne donne pas satisfaction, avec une morgue brutale et sans explication.
Quand même, elle l'a giflé en public, ça c'est une chose qu'un homme accepte mal.
Bien sûr, c'est une chose qu'un homme accepte mal, mais...
Une femme aussi d'ailleurs, je suppose.
Personne n'aime ça, évidemment. Évidemment, personne n'aime ça, mais si on aime vraiment quelqu'un et qu'on veut vivre sa vie avec lui, on doit pouvoir passer même sur des scènes encore plus violentes. Mais en fin de compte, les plus petits détails deviennent insupportables quand ils ne fonctionnent pas, parce que je crois que les deux rêvent la perfection, et dès que quelque chose n'est pas absolument parfait, ils réagissent de manière assez infantile tous les deux finalement. C'est l'enfant qui veut tout et qui se met à trépigner et à se rouler par terre s'il n'a pas exactement tout.
Il avait tellement peur de dire une sottise, une phrase malheureuse qui la fâcherait ou lui déplairait, qu'il n'osait plus parler, plus bouger. Il restait à côté d'elle, les bras ballants, la bouche crispée à force de sourire avec optimisme, mouton tremblant, fasciné par l'aigle dans le ciel. Elle avait tort de lui reprocher sa mollesse. C'était de la paralysie. Une étrange et invincible asthénie. Totalement inhibé, il ne se défendait plus, frissonnait à l'idée de prendre la moindre initiative. Prisonnier de l'implacable mécanique qui les broyait, entièrement absorbé par le souci d'éviter les crevasses qui s'ouvraient sous leurs pieds, ils s'étaient étroitement claquemurés pour ne rien perdre du désastre. Plus j'y réfléchis, et plus je pense que tout cela était parfaitement logique, ainsi qu'il arrive dans les tragédies, qui sont l'exemple même de la pure rationalité. Logique, l'attitude de Sarah, qui, parce qu'elle avait trop attendu, n'attendait plus rien et se raccrochait désespérément à ce rien, tant elle avait peur de ce qu'il pouvait y avoir au bout du néant. Logique, le comportement de Harry, qui s'était débattu dans les mailles d'un amour trop gros pour lui, qu'il avait finalement accepté au moment précis où il se dérobait et qui, depuis, errait misérablement, chien battu et pris du fouet qui le mord. Logique, enfin, le processus sans issue qui résultait de leur confrontation, de leur juxtaposition. Je crois que le temps a été leur plus grand problème, celui qu'ils n'ont jamais su maîtriser. Ils n'ont pas évolué à la même vitesse, de sorte que sur le circuit fou où ils tournoyaient, après l'accélération commune du départ, ils n'ont fait que se croiser, se dépasser, se heurter ou s'éviter, renouvelant ensemble l'espoir et la douleur chaque fois qu'ils s'apercevaient à l'horizon, puis se perdaient de vue jusqu'au prochain passage. Tout s'était déréglé. La balance déglinguée, où Sarah voulait jadis peser son amour, fonctionnait à présent dans l'autre sens. Ils auraient pu poser sur le meilleur plateau 4 jumbo jets, un porte-avions, 3 locomotives et 2 trains de la Minoire, sans pour autant le faire bouger d'un pouce. Comme les passagers d'une automobile dont on a perdu le contrôle, ils regardaient jaillir en priant à mi-voix les obstacles qui menaçaient de les fracasser. Un tonneau, encore un autre, un troisième, une glissade, un arbre évité de justesse, le bruit des vitres qui se brisaient, de la tôle qui s'enfonçait, et le miracle d'être encore vivant une seconde, une fraction de seconde, un minuscule et dernier instant. Ils se cramponnaient l'un à l'autre, en attendant le choc final, hurlant silencieusement pour qu'il ne se produise pas. Il y avait une chance, une toute petite chance. Il suffisait d'être courageux, patient, obstiné.
Ils ont réussi pendant un certain temps parce qu'ils voulaient tout et ils étaient donc prêts à tout donner. Et à partir du moment où on se lance dans des concessions, dans des compromis, où on essaie de comprendre l'autre, on se situe sur un plan différent qui est celui de l'amour adulte, mais qui n'est plus celui d'une passion qui est très infantile par beaucoup de côtés.
Oui, finalement, si on veut réussir une union, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de passion au départ.
Oui, raisonnablement, c'est ce qu'il faudrait dire, mais je trouve ça aussi très triste d'un autre côté, parce que c'est beau d'avoir envie de beaucoup plus, même si on sait que ça ne marchera pas très bien. Et je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, réussir un amour ou réussir une passion.
Je dirais être bien avec un être longuement dans sa vie.
Oui, mais à eux, ça ne suffit pas d'être bien. Être bien avec un être longuement dans sa vie, ça, je crois que c'est une grande réussite. C'est pas très facile non plus, et ça suppose beaucoup de générosité, beaucoup de qualité, de cœur et d'intelligence. Mais eux veulent beaucoup plus que ça. Ils veulent un paroxysme permanent. Or, le principe du paroxysme, c'est qu'il s'arrête, sinon c'est plus un paroxysme. Et il y a une espèce de contradiction dès le départ. Qui se situe là, qui est dans le fait qu'ils veulent le maximum à tout instant. Et que comme le maximum se définit par opposition au minimum, on ne peut pas avoir le maximum à tout instant, par définition. Et c'est ça la raison de leur échec, en fin de compte. Dès que des petites traverses viennent barrer leur route, d'une manière ou d'une autre, des petites choses, le départ de Harry pendant quelques jours parce qu'il doit se livrer à des activités professionnelles ou des choses comme ça, qui ne devraient poser aucune espèce de problème à des couples moins ambitieux, pour eux deviennent tragiques, dramatiques, parce que une seconde ou une minute d'absence de l'être aimé à ce point, c'est totalement insupportable. Et c'est là que je vois à la fois leur aspect infantile et leur côté émouvant.
On suit Sarah davantage, enfin, on est plus près de Sarah et de son... De ses réactions que de celles de Harry, mais elle souffre comme une malheureuse bête de cette séparation. Elle souffre terriblement et pourtant quand elle le retrouve, elle est incapable de retrouver cet amour. C'est sans solution leur situation. C'est absolument inextricable. Aucune solution n'est possible.
Non, bien sûr, aucune solution n'est possible, mais mon idée est qu'il le savait dès le début, plus ou moins confusément. Et effectivement, quand ces problèmes surviennent, par la suite, elle peut essayer de renouer une relation plus calme, plus dense, plus posée, plus raisonnable avec Harry, mais elle refuse de nouer cette relation-là parce qu'elle veut retrouver une espèce d'innocence des débuts. À travers tout leur débordement sexuel, en fin de compte, elle essaie de retrouver une virginité initiale. Et la virginité est quelque chose qu'on perd une fois, et puis on ne peut pas reperdre sa virginité 150 fois. Et alors c'est ça qu'elle voudrait.
Mais si elle rencontrait un autre homme, parce qu'avec le tempérament qu'elle a, il semble que ce besoin de paroxysme soit constant chez elle. Donc peut-être dans une autre union, pas forcément celle qui va suivre, mais une union, un jour peut-être, on peut imaginer qu'elle le retrouvera, cette virginité précisément. Parce que c'est moins une affaire de fatalité de l'amour en général ou de la passion en général qu'une affaire de caractère chez ces deux êtres.
J'en suis pas complètement sûr. Je ne crois pas qu'elle retrouvera quelque chose de semblable. Justement, son problème, c'est qu'elle veut essayer de retrouver la perfection du début. Et la perfection du début tire son prix du fait qu'elle se situe justement au début, qu'on n'a pas connu avant, que c'est une découverte, une révélation bouleversante. Et quand on découvre l'Amérique pour la deuxième ou la troisième fois, on a déjà lu ça dans des livres, on a déjà vécu ça, et ça n'a pas l'aspect passionnant et bouleversant de la première expérience. Et c'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait vivre constamment la première expérience, ce qui est impossible. Mais lui aussi, d'une certaine manière.
Tu pleures parce que tu ne m'aimes plus, c'est ça?
Elle baissa les paupières. Elle savait qu'elle était en train de dresser entre eux une barrière infranchissable que rien ne pourrait plus entamer. Elle s'arrachait du cœur chaque brique de ce mur, la cimentait de larmes. Étouffée par le poids intolérable de ses moellons, elle ne respirait presque plus.
Non, Harry, je t'aime encore. Mais ce n'est plus pareil. Et je ne veux pas que ce ne soit plus pareil. Je voudrais que ce soit comme avant. Éternellement comme avant.
Ça ne peut pas l'être, Sarah.
C'est cela que je ne supporte pas, que ce soit différent.
Harry s'assit, se laissa tomber sur le tapis à côté d'elle. Elle ne voyait plus que son dos. Il rompait ses amarres et il partait lentement à la dérive.
Sarah. On ne peut pas vivre comme un enfant capricieux qui veut toujours rester un enfant. Un amour naît, et il est beau quand il naît. Ensuite, il grandit, il mûrit. Il peut être très beau aussi, il change, comme un homme.
Il n'avait pas osé ajouter « il meurt ». Ce n'était pas nécessaire.
Dans 5 ans, dans 10 ans, tu ne seras plus la même. Et ton amour non plus ne sera plus le même. Il changera avec toi. Tu auras perdu ton innocence, ta simplicité, mais tu auras gagné autre chose.
Je ne veux pas qu'il change. Je veux le garder intact, comme il était. C'était comme ça qu'il était beau.
Alors quoi? Tu vas faire des photos? Et tu vas le tuer pour l'empêcher de grandir, c'est ça? Tu regarderas toute ta vie le visage d'un enfant mort?
Oui. Je crois que c'est ça.
Je pensais que c'était à cause de mon âge, de mon fils et de mon passé, de mon métier.
Oui.
À cause de mon caractère, de ma violence et de mes réactions de mauvaise humeur. Parce que tu avais l'impression que je ne te comprenais pas, que je ne t'allais pas bien. Parce que tu te faisais du souci pour l'avenir, parce que tu avais peur que nous soyons trop différents et que ce soit difficile.
Oui.
Parce que je t'ai trahi. Tu n'avais plus confiance en moi. Tu n'étais plus naturel. Tu te retenais. Tu craignais que je ne sois pas assez disponible pour toi.
Oui, Harry. Moi aussi, je le pensais.
Mais ce n'était pas ça.
Ça compliquait les choses, Harry. Si tu avais eu 20 ans, que tu sois plus malléable, j'aurais fait un effort, j'aurais essayé. J'aurais eu plus de foi dans l'avenir.
Tu n'as plus d'espoir?
Non. Je suis arrêtée.
Il comprenait enfin ce qui se passait. Elle s'était enfermée dans un cimetière étroitement clos
aux fleurs fanées depuis longtemps, où elle errait sans but.
Il faut te battre, Sarah. Il y a un avenir pour nous. Nous pouvons être heureux comme avant. Nous ferons des choses fantastiques. Il te suffit d'un peu de confiance, d'un peu d'amour. Viens vivre avec moi à Paris, on recommencera.
Ce n'est pas possible, Harry, j'ai déjà essayé.
Sarah, je t'aime.
Moi aussi, je t'aime, Harry.
Enfin, ça n'a pas de sens. Je t'aime, tu m'aimes, je suis malheureux sans toi. Tu n'es pas heureux sans moi et nous allons rester séparés, traîner le reste de notre vie comme des âmes en peine. Et pourquoi? Pour un rêve, un fantasme.
Ce n'était pas un rêve, Harry. C'est vraiment arrivé. C'était le moment le plus heureux de mon existence. Je n'oublierai jamais. J'en aurai toujours de la nostalgie. Je passerai mon temps à le chercher et à y penser.
Alors tu vois bien, c'est de la folie.
Mais ça ne peut pas revenir, c'est passé. Il y a eu trop de choses entre nous. Une montagne qui nous empêche de nous rejoindre.
Une taupinière, des broutilles. Réfléchis 5 minutes. Tu dois oublier tout cela. Ce serait tellement dommage. Tu regretteras.
On ne peut pas oublier. Je ne peux rien oublier. J'ai trop souffert, Harry. Je ne veux plus jamais être malheureuse ou simplement insatisfaite.
Tout ou rien, c'est ça?
Oui. J'ai peut-être une chance.
Tu n'en as aucune si tu me quittes.
Il répétait des phrases entières déjà dites auparavant, ce jour-là ou un autre, ressassait interminablement les données obstinées du même dilemme. Ils auraient pu en discuter pendant des siècles sans avancer d'un pas. Muets de frayeur au fond de ce piège, ils se débattaient douloureusement, se déchiraient par habitude, presque distraitement, cherchant machinalement dans le vocabulaire les mots les plus meurtriers, les plus coupants, ceux qu'on ne peut pas retirer.
Sarah, si je m'en vais maintenant, si tu me repousses, tu ne me reverras plus jamais. Tu ne peux pas supporter ce que je t'ai fait. Mais je ne comprends pas que tu puisses envisager de supporter ça, une vie désertique où je serai mort. Tu seras malheureuse sans moi.
Oui, c'est vrai. Longtemps, très longtemps. Mais un jour, je rencontrerai peut-être quelqu'un avec qui ça recommencera. Je ne ferai pas les mêmes bêtises qu'avec toi. J'aurai grandi, comme tu dis. Peut-être pourra-t-il me sauver.
Je te le souhaite.
Il n'en pensait pas un mot.
Je te le souhaite aussi, Harry.
Alors c'est fini. C'est comme ça que ça finit.
Elle garda le silence et recommença à pleurer. Il la regardait, pétrifiée, atterrée. Elle savait que c'était cette image de son visage qu'elle conserverait finalement, ses yeux durs et désespérés, les rides d'amertume au coin de sa bouche.
Tu es folle. Je pense que tu es folle.
Non. Peut-être. Je suis fatiguée. Je suis terriblement fatiguée.
Dis-moi que tu ne m'aimes plus, Sarah. Dis-le-moi bien en face. Tu n'en es pas capable. Tant qu'il y aura un peu d'amour en toi, je pourrai...
Il le fixa droit dans les yeux et lâcha d'une voix de couteau.
Je ne t'aime plus assez.
Thank you. C'était Un livre, des voix, une émission de Pierre Cibriot. Aujourd'hui, Roman d'amour de Michel Crespi chez Kalman Lévy, avec Catherine Laborde, André Oumanski, Maurice Travaille. Prise de son, Daniel Bizien. Collaboration technique, Jean-Michel Bernot. Assistante, Nicole Salerne. Réalisation, Arlette Dave, qui s'entretenait avec l'auteur.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 13 juillet 1984. Vous pouvez la réécouter pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Parler d'amour poli comme égal et tiède. On marée finissant un soir d'avant tempête. Parler d'amour.
Parler d'amour.
Comme un jeu discernant quand la mer est muette.
De ces amours qui poussent entre deux cœurs en doux. Parler d'amour.
Ne pas parler de nos départs, des déchirures sous les regards, les amertumes.
Que l'on se cache,
que l'on se cache.
Parler d'amour, de ces amours trop clairs pour laisser sur la pierre la blessure insolite de nos amours maudits. Parler d'amour.
De ces haines cachées au lendemain des rêves, sous les monts acérés comme des tranchants de glaive. Parler d'amour. Ne plus parler de nos hivers, sereines en main. Et puis se taire, et puis se taire.
Parler d'amour.
Parler d'amour. Parler d'amour, d'accord, mais d'amour tendre alors.
Parler d'amour.
Allez.